Guylaine Aubé, vous avez fondé une communauté qui s'appelle les Sœurs Missionnaires des Campagnes. Vous avez fondé
ça. Les Sœurs des Campagnes.
Les Sœurs des Campagnes.
Voilà.
Vous avez fondé cette communauté il y a une trentaine d'années.
C'est ça, en 1947.
Qu'est-ce que vous avez voulu faire exactement?
Vous savez, quand on fonde une communauté, du moins dans mon cas, on ne veut pas tellement faire quelque chose. On marche un pas à la fois. On est pressé de commencer quelque chose. Évidemment, dans mon cas, il y avait un antécédent. Il y avait eu une fondation de frères missionnaires des campagnes 4 ans auparavant. Et étant dans une région déchristianisée, étant moi-même très préoccupée des problèmes apostoliques de la campagne, j'avais trouvé grand intérêt à cette fondation qui, avant le concile, avait porté déjà des notes de renouveau, de vitalité chrétienne qui étaient très attirantes. Et comme je voulais la vie religieuse, je cherchais comment je pourrais trouver dans une congrégation féminine existante quelque chose d'analogue. Et je ne le trouvais pas. Et c'est ce qui, peu à peu, m'a poussée à entreprendre moi-même ce qui aurait pu être considéré dès le départ comme la branche féminine de cet institut.
Bon, vous pensiez à devenir religieuse?
Oui.
Mais est-ce que vous aviez une certaine idée du type de religieuse que vous vouliez être?
Je voulais être religieuse à la campagne et que ça soit simple. Et je ne savais seulement dire que cela. Il faut que ça soit simple. De sorte que je ne me sentais pas appelée ni à être enseignante, ni hospitalière. Mais je ne savais pas bien dire ce que ça pourrait être. Mmh. Je ne me sentais pas non plus appelée à une vie monastique, contemplative, proprement dite. Mais à une vie simple.
Une vie simple. Oui. Et après, maintenant, plus de 30 ans.
Oui.
C'est quoi une sœur des campagnes?
Eh bien, une sœur des campagnes, c'est une religieuse qui a opté pour une vie religieuse dans le monde rural et qui choisit de mener une vie très religieuse, en sens que la prière, la communauté tiennent une grande place, mais aussi très rurale, parce que nous avons une vie de travail ordinairement à mi-temps et d'un travail pauvre. Je m'explique, c'est un travail qui nous font avec la population environnante et non pas un travail qui nous la ferait surplomber d'une certaine façon. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire.
Vous travaillez donc comme les femmes du pays travaillent.
Voilà, c'est un peu notre perspective de départ.
Et comme les plus pauvres.
Et comme les plus pauvres, du moins
les plus simples,
c'est oui. Ça. Oui.
Comment devient-on sœur des campagnes? Enfin, vos compagnes? D'où viennent-elles? Qui sont-elles?
Alors, elles sont souvent originaires du monde rural. Oui. Elles sont originaires de régions de France, en général, plus chrétiennes que les régions où elles vont ensuite. Parce que nous allons dans les régions peu chrétiennes de France. Et souvent, elles sont nées de régions plus chrétiennes. Et ce sont des filles qui, quelquefois, ont exercé une profession. Même, par exemple...
Quel type de profession?
Eh bien, les dernières entrées, c'est peut-être le plus intéressant. Il y en avait une qui était... institutrice libre à la campagne, une autre aussi directrice d'une petite école, une autre a travaillé dans l'administration dans une ville, mais ses parents étaient eux-mêmes exploitants agricoles, une autre était monitrice d'enseignement ménager.
Mmh. Vous voyez, combien y a-t-il de religieuses?
80.
Et qui vont travailler, qui vont continuer à exercer le métier, la profession qu'elles exerçaient?
Pas nécessairement, même souvent pas. Parce que vous voyez, ces deux enseignantes, elles avaient été très contentes d'enseigner une partie de leur vie, mais elles se sentaient elles aussi appelées à mener une vie religieuse simple, plus mêlée à la population, plus proche des gens. Et c'est ce qui les a amenés à choisir notre congrégation.
Enfin, moi, je voudrais revenir un peu à cette fondation, n'est-ce pas? On pourra reparler après, parce que, vous savez, ça me fascine un peu que l'on fonde une communauté religieuse dans les années 47-48, alors que déjà, il y avait tellement de communautés religieuses. Et je me dis, mais pourquoi, par exemple, pourquoi créer quelque chose de neuf?
Oui.
Et c'est ça que je voudrais d'abord essayer de comprendre.
Je comprends, vous pensez ça, parce que moi-même, je pensais entrer dans une communauté existante. Comme une jeune qui cherche, je me disais, il y en a beaucoup, il faut que je trouve celle qui doit être, celle que Dieu a voulu pour moi. Je vais la trouver. En plus, c'est curieux, parce que j'avais dans l'idée d'entrer dans un grand ordre.
Et, comme quoi, par exemple
pour moi, un grand ordre, c'était dominicain, franciscain,
bénédictin.
Jésuite, bénédictin. Mais vous voyez, pas... dans une poussière de petites congrégations, nous en sommes une, mais, et ce n'était pas ça que je pensais.
Et pourquoi un grand orgue ?
Eh bien, un grand orgue
parce
que...
Parce que
je pensais qu'il y avait une tradition religieuse solide, et que je pensais qu'une vie de prière, vous voyez, qui n'hésiterait pas à prendre l'office liturgique, par exemple, me paraissait plus attirante. À ce moment-là, les congrégations avaient une vie de prière peut-être solide, mais alimentée par des dévotions, souvent. Mmh. Et ça ne m'attirait pas. Vous voyez ce que je veux dire par
dévotion ? Vous voyez donc une spiritualité très ancrée dans la vie liturgique de l'Église, si je
c'est
comprends
ça,
bien.
C'est ça,
oui. Et non pas donc une dévotion au Sacré-Cœur ou à la Vierge Immaculée.
Oui, c'est ça, exactement.
Oui. Mais alors, vous fondez, n'est-ce pas ? Donc à ce moment-là, vous refusez des choses. Vous refusez
j'avais même pensé entrer dans une congrégation donnée, j'aime mieux ne pas la citer, mais enfin, oui. Et pendant tout un temps, j'ai envisagé, même j'ai pris des renseignements très précis pour entrer au noviciat. Mais voyant se développer la congrégation des frères, qui m'apparaissait quelque chose de à la fois très ancien et très nouveau.
En quoi
très ancien, en sens que c'était ancré très profondément dans la tradition de l'Église, par la prière liturgique, par un sens déjà du renouveau biblique qui s'est développé après, par une volonté qu'avait le père Épagnol de donner aux frères une formation très axée sur les pères de l'Église, voyez, tout en étant très ouvert au monde moderne. Alors ça me paraissait quelque chose de très très solide. Mais fondamentalement, il y avait surtout l'idée d'un retour à l'Évangile. Voyez, que, je connais un dominicain qui m'a dit, quand je suis entré dans l'ordre, il m'a fallu 7 ans pour faire le lien entre ce qui se disait sur la consécration religieuse et ce que pouvait être la suite du Christ. Je ne sais pas si ça veut dire quelque chose.
Expliquez-moi.
Que je dis là.
Oui, expliquez-moi.
Vous voyez, bon, au temps où les frères ont commencé la fondation, où le père Épagnol a commencé en 1943, on parlait dans les instituts religieux de consécration, de vie consacrée, mais on avait un peu oublié l'aspect suite du Christ. Peut-être pas concrètement. Mais c'était tout de même pas ça qui mobilisait. Or, le fait que le père Épagnol dise « Mais la vie religieuse, ça n'est que suivre le Christ, comme le baptême y invite tous les chrétiens, mais le suivre dans un certain absolu qui va amener à certains renoncements que tous ne sont pas amenés à faire. » Ça met une grande unité dans la vie, vous voyez. Et ça fait redécouvrir la vie religieuse d'une manière... un peu comme à l'état naissant, un peu beaucoup plus dynamique et beaucoup plus simple aussi. Tout d'un coup, ça me faisait trouver ce que je cherchais en disant simple.
Mais justement, vous venez de poser un problème, n'est-ce pas ? Vous dites suivre le Christ, mais justement, est-ce que tout chrétien n'est pas appelé à suivre le Christ ?
Justement,
alors je dirais, alors pourquoi des religieux ?
Tout chrétien est appelé à suivre le Christ, et c'est bien pour ça, c'est cette redécouverte-là qui a motivé peut-être un peu notre fondation, c'est que le père Épagnol savait très bien nous montrer ça, que tout chrétien est appelé à suivre le Christ, de sorte qu'on ne pense pas, en s'engageant à la vie religieuse, être plus ou être... Vous voyez,
que... Mais les autres chrétiens, qui ne sont pas comme vous,
oui.
N'est-ce pas, qui ne sont pas des religieux,
oui.
Est-ce que ce sont des chrétiens de seconde zone?
Non,
ou bien
justement.
Est-ce que les seuls chrétiens, les seuls vrais chrétiens finalement, ce sont les religieux, les religieuses?
Non, les seuls chrétiens ne sont pas les religieux et les religieuses. Tous sont appelés à la perfection. Le Concile l'a redit après. Mais dès ce moment-là, le père Épagnol disait « Ce qui est important, c'est votre baptême. » Au départ, c'est votre baptême. Nous sommes tous appelés à suivre le Christ de par notre baptême. Mais à l'intérieur de ces chrétiens tous appelés, il y a des appels différents. On ne peut pas réaliser la richesse de l'Évangile sous un seul mode, si vous voulez. Et bien, pour nous, ça passe forcément par certains renoncements. Si vous renoncez à fonder un foyer, renoncez à posséder par soi-même, renoncez à organiser sa vie selon comme on le pense, si vous voulez, ça nous, il ne s'agit pas de plus, peut-être, il s'agit d'autrement. Mais en fait, nous sommes tous appelés à suivre le Christ, tous appelés à la perfection.
Vous vous référez beaucoup au père Épagneul, et d'une certaine façon, vous me décevez. Parce que moi, je disais, enfin, je suis devant quelqu'un qui a fondé un ordre, n'est-ce pas? Et là, tout à coup, vous me renvoyez à ce père Épagneul. Est-ce que c'est vraiment vous qui êtes la fondatrice de cette communauté, ou si c'est ce père Épagneul?
Je crois que c'est moi qui l'ai fondé. Il ne voulait pas fonder d'institut féminin, vous voyez.
Pourquoi ?
Il avait fondé un institut masculin et il disait aux femmes de s'occuper des femmes, je n'ai absolument pas la grâce de fonder des sœurs. Mmh. Et il se sentait très bien appelé à fonder un institut d'hommes, c'est ce qu'il a fait. Après, il disait, il y aura des sœurs s'il doit y en avoir.
Alors justement, qu'est-ce que ça veut dire être une communauté religieuse de femmes ? Comment vous voyez ça, vous, des femmes en communauté ? Alors au moment où on parle tellement... n'est-ce pas, de la libération de la femme.
Oui.
Au moment où on dit tellement que justement les femmes ont une façon propre d'être, n'est-ce pas ? Qu'est-ce que c'est qui est propre ? Comment vous voyez justement ce problème-là en tant que femme et religieuse ?
Je pense que nous sommes nés un peu autres que si nous avions été fondés par le père Épagneul, par exemple. Voyez. Nous avons trouvé notre propre ligne et je crois que ce qu'à l'avenir on pourra... Enfin, le temps passera, si l'Église réfléchit là-dessus, nous pouvons être redevables au père Épagneul d'être nous-mêmes parce qu'il n'a pas cherché à mettre la main sur nous, si vous voulez. Je crois que nous avons pu réaliser toutes les virtualités qu'il y avait en nous pour être des sœurs qui soient une communauté féminine. Alors comment est-ce que je vous exprimerais ça?
Je voudrais par exemple le prendre par rapport à un axe que vous avez développé dès le début, n'est-ce pas ? C'est-à-dire cette responsabilité comme femme par rapport à l'Évangile dans un milieu déchristianisé.
Oui.
J'aimerais que vous développiez cette
chose. Vous voyez, nous avons, dès le départ, pensé qu'il fallait que nous nous engagions dans la vie religieuse, entre nous, et nous ne cherchions pas ni à copier, ni à suivre, ni à prendre nos consignes, si vous voulez, de la congrégation masculine. Nous pensions qu'elle ne serait pas elle-même apte à remplir toute sa mission si elle n'avait pas un autre effort correspondant qui permette que l'ensemble du monde rural ait ce double aspect dans sa prise en charge apostolique de frères et de sœurs. Mmh. Oui. Je ne sais pas si c'est bien clair mon affaire.
Je voudrais que justement vous clarifiez, n'est-ce pas ?
Oui.
Comme femme,
quelle
responsabilité vous sentez-vous à l'égard de l'Évangile ?
Quelle responsabilité à l'égard de l'Évangile ? Je ne sais pas si c'est une responsabilité qui est... Nous la vivons autrement, mais est-ce que c'est... Je ne sais pas si ça donne une note tellement...
Ouais, si je reprends par exemple justement les textes évangéliques, n'est-ce pas ?
Oui.
Bon.
Oui.
Il n'y a pas de femmes parmi les apôtres.
Oui.
Mais par ailleurs, n'est-ce pas, c'est à des femmes que Jésus, ressuscité, dit d'aller annoncer sa résurrection.
Ça nous a toujours beaucoup marqué. Oui.
Alors qu'est-ce que ça veut dire pour vous ? Vous dites que ça vous a marqué, qu'est-ce que ça signifie ?
Ça nous a marqué en sens que nous nous sommes dit, il y a des appels autres pour des hommes et pour des femmes, mais nous sommes appelés directement par le Christ à témoigner de l'Évangile. Nous n'avons pas à le faire simplement en dépendance, mettons, de prêtres qui en seraient chargés. Nous n'avons pas... En tant que communauté religieuse féminine, nous avons même à avoir un lien direct avec l'évêque, et pas toujours par l'intermédiaire d'eux. Ça, c'est peut-être une des premières choses qui s'est marquée dans notre congrégation.
D'affirmer une autonomie, finalement.
Une certaine autonomie, avec des liens.
Oui. Vous avez recruté 80 filles en l'espace de 30 ans.
Oui.
Ça vous paraît suffisant ?
Ça ne me paraît pas suffisant, non. Je pense que... C'est-à-dire que je n'ai pas le sentiment de les avoir recrutées. Elles sont venues. Oui, bien sûr, au départ, nous avons été connus par l'Action catholique, parce que j'en étais originaire. Il y avait des aumôniers qui savaient que ça existait. Et puis, certains frères ont exercé un ministère dans des milieux ruraux. Certaines filles en ont entendu parler. Ça s'est su un peu comme ça. Mais c'était tout de même assez surprenant de voir que des filles venaient de régions très diverses, parce que nous sommes originaires de tous les coins de France. Et parce qu'elles avaient vu dans un journal deux mots, trois mots, elles faisaient toute une recherche pour arriver à nous trouver. Et ce n'était pas du tout, vous voyez, par, comment dire, un recrutement, comme vous dites.
Par rayonnement, plutôt, si on peut dire.
Peut-être. Je pense à une, vous voyez, qui est originaire de l'Ariège, donc un pays qui est pré-pyrénéen, un peu montagneux, là, de petites exploitations dans la montagne. Et elle, dans un journal, elle avait entendu parler de ses sœurs qui menaient une vie de travail et qui étaient intégrées dans le monde rural et menaient une vie très simple au contact de tout le monde. Et elle s'est dit, c'est ça qu'il me faut. Alors elle a parlé à un prêtre, à des religieuses, on l'a envoyée à telle ou telle communauté, personne ne connaissait la nôtre. Et elle a cru que c'était ça, mais en arrivant, elle a dit, mais non, je ne trouve pas cette vie rurale, cette vie simple, c'est pas ça que j'ai voulu. Il a fallu toute une recherche, vous voyez, pour qu'elle finisse par trouver. Et c'était pas le seul cas.
Au moment où tant de garçons et de filles sont attirés justement par des religieux d'autres religions,
oui.
Je pense aux bouddhistes, par exemple, je pense aux zen.
Oui.
Est-ce que vous n'êtes pas un peu déçu de voir que vous n'avez pas su attirer davantage de jeunes vers vous?
Oui. Là, ça me semble un peu, en effet, le problème de toutes les vies religieuses apostoliques de notre temps. Il y a quelque chose qui ne me semble pas, comment dire, avoir retrouvé ou avoir trouvé sa ligne pour aujourd'hui. Et je crois que ça dépasse notre propre cas, mais je rejoins tout à fait ce que vous dites là. Je crois que ça dépasse notre propre cas, parce qu'après après un certain nombre d'années de fondation, j'ai été amenée à dépasser le stade de notre congrégation en étant responsable des supérieurs majeurs de l'ensemble de la France. Vous voyez. Donc, de connaître l'ensemble des congrégations en France. Et à ce moment-là, il y avait combien de milliers de religieuses françaises, 110 000 religieuses en France. Alors, les supérieurs provinciales ou générales de toutes ces congrégations ont un organisme qui s'appelle l'Union des supérieurs majeurs, dont j'étais la présidente un temps. Et j'ai été témoin du renouveau de la vie religieuse contemplative dans les monastères. Et je pense que le renouveau de la vie religieuse apostolique, il tarde un peu. Enfin, il viendra, mais il n'a pas trouvé encore son mode et son chemin. Et je crois que ça, c'est plus large que simplement notre propre cas. Mmh. Oui.
Vous avez été supérieure de votre communauté que vous avez fondée.
Oui.
Vous avez été même la présidente des supérieurs.
Majeur. C'est ça.
Vous avez donc été en exercice d'autorité.
Oui.
Et pourtant, vous aviez fait vœu d'obéissance.
Ah oui, mais enfin, il y a aussi une manière d'obéir en exerçant l'autorité, parce que c'est
ça.
Pas toujours facile. C'est-à-dire qu'il ne faut pas faire de l'autorité quelque chose de personnel qui affirme une volonté de puissance. Il s'agit d'essayer d'exercer l'autorité à la manière de l'Évangile.
Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça a voulu dire pour vous?
Ça veut dire qu'il faut se ranger par rapport à la règle commune, si vous voulez. Il faut essayer de la faire vivre par tout le monde, mais par moi d'abord. Et puis, il faut s'efforcer de servir, et puis, non pas d'être servi, mais ça, c'est pas joué d'avance.
Oui, mais vous me dites là des belles choses, ça m'apparaît, bon, des paroles d'Évangile.
Oui, c'est ça, oui.
Mais comment
ça
se
vit ? Vous vous demandez comment ça se vit concrètement.
Ouais.
Je ne sais pas, peut-être que je ne l'ai pas tellement bien vécu. Je pense que un des aspects, c'est un jour de pouvoir s'en retirer, si c'est mieux de s'en retirer.
C'est
d'y rester s'il faut rester. C'est d'accepter certaines responsabilités quand on doit les prendre, mais de chercher à préparer la suite pour s'en retirer dès que c'est possible. Enfin, je ne sais pas.
Vous vous êtes retiré d'ailleurs.
Bien,
vous
au
n'êtes
bout
plus supérieur,
de. C'est ça, oui. Ni supérieur, ni président, ni.
Oui.
Non.
Alors qu'est-ce que ça veut dire pour vous d'obéir?
J'espère que ça veut dire comme pour les autres. Nous essayons de suivre le Christ, on essaye d'entrer dans le chemin qu'il a tracé. C'est pas une obéissance, comment dire, je trouve que mes sœurs ne pratiquent pas non plus à mon égard une obéissance qui impose la volonté de puissance. Mmh. Je crois qu'elles le jouent bien, qu'il y a un dialogue.
Non, mais vous comprenez aussi, ma sœur, que c'est quand même un problème très sérieux aujourd'hui pour des jeunes. Vous leur proposez un modèle d'obéissance, n'est-ce pas? Alors que, par exemple, tous les psychologues, les psychiatres, tous les psys du monde, n'est-ce pas? Et puis tout le reste, n'est-ce pas? Nous proposent au contraire un modèle d'autonomie, un modèle de liberté.
Oui. Mais pour nous, la liberté qu'on trouve dans le Christ, c'est par un chemin d'obéissance. Enfin, c'est Et cette obéissance, elle a deux aspects. Il y a un aspect de communautaire dans lequel la communauté veut trouver la volonté de Dieu à travers des médiations.
Qui sont... Ça m'apparaît un langage très abstrait.
Très vous abstrait, oui, c'est ça. Oui. Eh bien, nous... Pourtant, vous savez, il y a des communautés de jeunes qui se fondent comme ça, qui se fondent et qui se défendent oui. Dans certaines régions de France, qui viennent quelquefois discuter avec nous pour voir comment nous pouvons vivre dans la durée. Parce que quelquefois, voulant vivre en communauté et être libre, eh bien, ils s'aperçoivent au bout d'un temps qu'ils ne voient pas comment on peut faire jouer les deux, si vous voulez. Et je crois que la force de la vie religieuse, c'est pas nous qui l'inventons, nous l'avons reçue de toute une tradition d'Église, et ça remonte à l'Évangile, par les actes des apôtres. Eh bien, ça montre qu'on trouve sa liberté en la perdant, comme il est dit dans l'Évangile. Et quand on a opté pour ce genre de vie selon une règle qui est vraiment inspirée par l'Évangile, que l'Église a reconnue comme étant un chemin d'Évangile, si vous voulez, le vivre ensemble, d'ailleurs avec peut-être des tensions et des mises au point et des recherches, etc. Il y a toutes sortes d'instances qui, comme les chapitres, qui font chercher où est le chemin. C'est finalement un chemin de liberté. Moi, par exemple, en ce moment, bien, je ne choisis pas par moi-même si je vais faire ma retraite ici ou là, si je vais prendre du temps à tel moment ou à tel autre. Je tiens compte à la fois de la communauté, de ce que désire ma responsable locale, que nous appelons prieur, et de ce que pense la supérieure générale, puisque nous sommes une très petite famille. Elle a une place dans chacune de nos maisons, si vous voulez, par rapport au bien général.
Mais qu'est-ce que ça veut dire justement cet appel à la liberté pour vous qui êtes religieuse? Cet appel à la liberté qui est si important oui. pour les hommes d'aujourd'hui. Oui. Qu'est-ce qu'il signifie? Est-ce que c'est une voie, ça peut être une voie évangélique ou si c'est une voie vouée à la perdition?
Je pense que c'est une voie évangélique.
Alors qu'est-ce qu'elle veut dire
Saint
pour
Paul
vous
nous dit qu'on a été appelé à la liberté.
Alors qu'est-ce que ça veut
et
dire
ça, c'est libérant justement. Oui. C'est-à-dire qu'on est appelé à être profondément soi-même selon les dons que Dieu nous a donnés. Et si vous voulez, c'est un chemin pour que toutes les forces qui nous conditionnent, le moins bon qui est en moi, ou les sollicitations qu'au fond profondément je ne souhaite pas, je m'en libère. Vous voyez, pour que le meilleur fond se trouve pouvoir s'exprimer selon l'appel du Christ et pour le rejoindre lui et pouvoir vivre de lui.
Ah, vous avez 30 ans de vie religieuse.
Ah oui, 30 ans de vie religieuse.
Un petit peu plus. Est-ce que vraiment après ces 30 années de vie religieuse, vous avez l'impression de vous être réalisé, de vous être épanoui?
Ah, certainement.
Vous avez réalisé l'idéal de femme que vous vouliez être?
Ça, je ne sais pas si j'avais un idéal de femme tellement défini à l'avance, vous voyez. Ce que je trouve, c'est qu'en regardant avec du recul, je me dis, j'ai le sentiment d'être plus libre qu'avant.
Qu'est-ce qui vous a libéré comme ça?
Qu'est-ce qui m'a libéré? Je crois que c'est la découverte du Christ plus profondément et que c'est le fait d'entrer assez profondément et sincèrement dans le jeu de la vie communautaire avec ses exigences et son obéissance.
La communauté, c'est important pour
vous. La communauté, c'est très important.
Le rapport aux autres.
Très important.
Vous voulez m'expliquer ça?
Eh bien, je crois qu'on reçoit des autres, beaucoup, parce que bon, nous sommes extrêmement limités par nous-mêmes, et que les autres nous aident à nous débarrasser de toutes sortes de choses dont nous n'avons pas conscience. Même, ça se fait quelquefois douloureusement, oui. Mais en même temps aussi, d'une manière très positive, je trouve mes sœurs ont un tas de dons différents des miens. Je trouve que c'est extrêmement intéressant, que ça se complète, que peut-être que certaines virtualités, on les abandonnera, qui étaient en nous. Mais je crois profondément, et d'expérience, vous voyez, en regardant ma vie, il me semble qu'il en est sorti du meilleur.
Je sais que vous donnez des conférences, vous prêchez même des retraites.
Oui, enfin, je l'ai fait.
À des moines.
Oui.
C'est nouveau quand même, ça, dans l'Église, qu'une religieuse aille prêcher à des...
Ça ne s'en fera peut-être pas, je ne sais pas. C'était de l'ordre du pari pour le père Abbé qui a voulu ça.
Qu'est-ce que ça représentait pour vous ?
Oh bien, vous voyez, au départ, comme une plaisanterie, vous voyez. Je ne pensais pas que... Je me disais, il dit ça, c'est une plaisanterie. Et puis, je ne croyais pas devoir y donner suite, d'ailleurs. Et puis, comme il y revenait tout le temps, au départ, j'avais une très bonne excuse, je n'avais pas le temps. Quand j'étais chargée des supérieurs majeurs, c'était pas très pensable, parce que déjà, les supérieurs majeurs, ça me prenait du temps par rapport à ma congrégation, qu'ils ressentaient vivement. Parce que je n'étais pas assez libre pour mes sœurs. Alors je ne pouvais pas prendre ça en plus. Mais quand je n'ai plus été en charge, il est revenu à l'assaut. Alors j'ai dit à la
mère. Vous avez même prêché chez les bénédictins.
Oui.
Dans un couvent célèbre à Saint-Benoît-sur-Loire.
Voilà.
Qu'est-ce que vous leur avez dit ?
Eh bien, vous savez, j'ai essayé de leur faire redécouvrir, enfin pas le redécouvrir, je pense qu'il ne manquait pas de l'avoir déjà découvert, mais de leur faire encore approfondir toute la richesse de leur vie bénédictine, de leur vie monastique. Pour ça, je m'étais un petit peu plongée dans la règle de Saint-Benoît. Et surtout, je leur redisais, puisque le père Abbé, nous nous connaissions bien, et je pense qu'il apprécie certains aspects de notre vie. Je lui leur redisais ce à quoi je crois profondément, qui est que la vie religieuse, elle est un chemin d'évangile, c'est donc tout simple, et un chemin d'évangile très exigeant, et il ne faut pas le fuir, et il faut qu'ils croient à leur vocation propre. Elle est différente de la mienne, mais elle est quelque chose d'indispensable pour l'Église, d'indispensable pour notre temps.
C'est important pour vous qu'il y ait ces traditions différentes, bénédictines.
Très important. Et j'ai découvert, vous voyez, que moi j'étais chez les supérieurs majeurs, la richesse de toutes ces traditions. Et même, vous voyez, je ne dirais plus si facilement qu'avant qu'il y a trop de congrégations. Bon, c'est vrai qu'historiquement, en France par exemple, puisque je connais plutôt la réalité française, il a dû s'en fonder peut-être un peu trop pendant, si vous voulez, pendant le siècle précédent. Peut-être. Mais c'était sans doute historiquement impensable qu'il en soit autrement. Mais je trouve que toutes présentent des notes évangéliques qui ont leur importance. Et j'ai découvert davantage, soit par les retraites, soit par le contact avec les congrégations, soit par l'étude de quelques spiritualités pour des conférences à donner à des religieuses, l'importance pour toutes les religieuses de redécouvrir les notes évangéliques qui sont à l'origine de leur propre appel et de le vivre. Et ça fait partie du trésor de l'Église. Vous voyez, on ne peut pas facilement le rayer.
Guylaine Aubé, pour l'ensemble des citoyens, peut très bien comprendre qu'à un certain moment de l'histoire, on ait pu avoir besoin des religieux, des religieuses, en particulier des religieux et religieuses des communautés dites apostoliques. Religieux ou religieuses qui s'occupaient d'enseignement, de soins infirmiers, etc. Mais aujourd'hui, où tous ces soins, tous ces besoins sont pris en charge par l'État, en quoi a-t-on encore besoin des religieux, des religieuses?
Oui, c'est-à-dire que là, il me semble que par votre question, vous limitez les religieux et les religieuses de vie apostolique à la tâche qu'ils ont à remplir, qu'ils avaient à remplir à un moment donné. Je me demande s'il n'y a pas une évolution possible et réelle, réalisée, qui fait que par la force des choses, d'abord, il y a des gens qui ne viendront plus remplir certaines tâches si elles ne sont plus nécessaires. D'autre part, il y a encore des tâches qui sont nécessaires. Pour moi, en France, je vois que certaines enseignantes et certaines soignantes ont une manière de remplir leur fonction qui est teintée par leur vocation religieuse. Et si elle n'est plus réponse à un vaste besoin, vous voyez, parce que ça a été pris en charge, en effet, par des organismes d'État ou d'autres organismes professionnels, elle apporte quelque chose de particulier dans le sens de l'homme, le respect des personnes, une certaine illustration de l'Évangile. Donc c'est encore valable. Mais je pense que ça sera, dans nos pays surdéveloppés, moindre que ça n'a été. Par contre, il y a de tels besoins dans d'autres régions. Pensez à Mère Teresa de Calcutta. C'est d'une autre manière qu'elle exerce, mais elle donne de l'enseignement, elle donne des soins, elles aident des gens très misérables, et c'est encore par des activités enseignantes et hospitalières.
Je sais qu'il y a quelque temps, vous étiez en Afrique.
Oui.
Pour aider une communauté à se former, à naître.
Oui.
Vous pourriez me dire exactement ce que vous avez voulu faire dans ce geste-là ?
Eh bien, nous avons eu des liens avec cette communauté dès son départ, il y a 15 ans. Et c'était un... voilà comment ça s'est présenté. C'est en Haute-Volta, dans un secteur, vaste secteur, qui est confié au Père Blanc et aux Sœurs Blanches. Enfin, surtout, à ce moment-là, c'était qu'au Père Blanc. Et un père a été frappé de voir des filles de la brousse, analphabètes, qui voulaient être religieuses. Et il se disait, peut-être pour un certain nombre, c'est une... un peu une question de promotion, mais pour d'autres, ça lui semblait parfaitement sincère. Et c'est dans des communautés chrétiennes très pauvres, mais très extraordinaires, que j'ai découvert en y allant plusieurs fois. Et... alors, il se disait, c'est malheureux, ces filles-là ne seront jamais religieuses, et elles sont peut-être plus religieuses que beaucoup. Elles seraient de meilleures religieuses, peut-être que d'autres. Il a pensé, est-ce qu'on ne pourrait pas fonder un petit institut qui serait à partir de ces analphabètes, qu'on alphabétiserait progressivement dans la mesure où ça serait nécessaire. Elles ne seront jamais des enseignantes et des soignantes, mais elles pourraient être apôtres dans leur milieu rural. Et il a pensé à ce moment-là que nous, sœurs des campagnes en France, dont il avait un peu entendu parler, nous pourrions peut-être les encadrer. Mais ça nous semblait nous dépasser. Nous étions encore trop peu nombreuses, nous sentions très adaptés au milieu rural français, pas forcément à l'Afrique. Et j'ai demandé aux sœurs blanches de bien vouloir les prendre en charge, et non pas nous, puisque à ce moment-là, je parlais supérieur majeur, je connaissais toutes les congrégations. Elles ont accepté en disant, à condition que vous ne les laissiez pas tomber, enfin que vous gardiez un lien. Et quand je n'ai plus été si prise, elles ont demandé que je vienne voir ces sœurs et un peu partager notre expérience avec elles, tout en découvrant ce qu'elles-mêmes vivaient. Et ça, je trouve que c'est très extraordinaire comme expérience.
Si je comprends bien là, ce que nous essayons de nous dire depuis que nous parlons, c'est qu'au fond, pour vous, il est important d'avoir une certaine discipline dans une vie religieuse. Est-ce que je me trompe en disant une chose pareille ?
Une certaine discipline, qu'est-ce que vous voulez dire par une certaine discipline ?
Un certain cadre de vie.
Oui.
N'est-ce pas ? C'est ça que j'entends par discipline.
Oui,
c'est pas
et vous voulez dire que ce cadre de vie, je voulais montrer aux
sœurs d'Afrique. Non, pas nécessairement, mais que c'est important qu'il y en ait un,
c'est important qu'il y ait un cadre de vie, oui.
Et ce que vous avez essayé de faire, c'est de les aider, si je comprends bien, à se donner à elles-mêmes un cadre de vie.
Oui, pas uniquement. Vous voyez, c'est aussi à découvrir l'inspiration profonde de la suite du Christ, comment elle peut se vivre dans une vie très simple, une vie rurale, comment elle peut se... comment elles peuvent avoir une vie tout animée par le Christ, même dans une vie très pauvre, même si elles n'ont peut-être pas un modèle comme ça dans leur pays. Mmh. On n'a pas besoin de modèle, on peut aussi... Mais malgré tout, pour elles, congrégation religieuse, ça veut dire des sœurs qui soignent et des sœurs qui enseignent. Et en Haute-Volta, c'est un peu ça maintenant qui existe, et c'est très nécessaire. Mais elles, ce qu'elles vont plutôt être amenées à faire, c'est rester très proches des petites communautés chrétiennes en brousse, et participer peut-être à la catéchèse, mais aussi vivre leur vie religieuse au niveau des gens, pour qu'ils comprennent que ça vaut la peine d'aimer Dieu à tel point qu'on peut y consacrer sa vie, que l'amour du Christ peut remplir une vie. Vous savez, le vœu de chasteté en Afrique, on dit que c'est un grand scandale, puisque le sens de la maternité est tellement, tellement poussé que renoncer à cette maternité charnelle, ça paraît quelque chose d'énorme.
Vous voyez que vous m'ouvrez une porte toute large et que je peux m'y enfoncer justement à fond. Si on en parlait précisément de cette chasteté des religieux, des religieuses dans un monde, vous me parliez de l'Afrique, mais dans toute notre société, n'est-ce pas, la vie sexuelle apparaît comme le lieu de la libération, le lieu de l'épanouissement.
Oui, c'est certain, moi je crois que on ne peut un peu faire comprendre que la chasteté vaut d'être vécue, que dans la mesure où le lien qu'on vit avec le Christ peut nous combler suffisamment pour que ça s'apparaisse un peu. Que ça apparaisse un peu, si vous voulez.
Qu'est-ce que c'est que ce lien avec le Christ ?
Ce lien avec le Christ, bien, c'est le fait que... C'est à ça qu'on revient toujours. C'est lui qui suffit ou qui comble, même à travers d'autres relations. Vous me direz, c'est vrai pour tous les chrétiens, ils peuvent rejoindre ça aussi. C'est vrai, mais malgré tout, c'est pas dans un foyer, c'est bon, à travers l'époux ou l'épouse que le chrétien va rejoindre le Christ. Tandis que là, nous sommes invités à le faire directement et à rappeler un petit peu peut-être par là que c'est à ça que nous serons appelés dans l'éternité, toujours, à rejoindre Dieu directement.
Mais c'est difficile pour une femme de 20 ans, 30 ans, enfin la femme que vous avez été, que vous êtes encore, n'est-ce pas? C'est difficile de vivre la chasteté dans la société où quand même vous êtes plongée, n'est-ce pas? Vous n'êtes pas une moniale, vous êtes plongée dans la vie active.
C'est vrai, oui.
Quelles difficultés vous avez rencontrées particulièrement, vous?
Comment dire ça? Il y a le fait qu'on n'y croit pas beaucoup dans nos régions, enfin dans les pays déchristianisés où nous allons. Alors il faut penser qu'on ne sera pas soutenu par des gens qui pensent que ça va de soi comme si c'était une communauté chrétienne. Et au contraire, on pense que vous avez une apparence, mais en fait vous devez avoir une vie double. Alors au départ, quand on est jeune, ça atteint un peu. Parce qu'on se dit, mais alors, est-ce que ça vaut la peine? Alors il faut découvrir que ça vaut la peine de le vivre et que ce qui compte, c'est de le vivre, même si d'autres n'y croient pas. Et qu'un jour ou l'autre, ça transparaîtra. Et je crois qu'effectivement, ça transparaît tout de même, parce que les liens communautaires, ils sont marqués par la relation personnelle avec le Christ.
Et choisir la chasteté, c'est pas renoncer à l'amour, quand même.
Ah non, c'est pas renoncer à l'amour, même pas renoncer aux amitiés, vous voyez. Pour nous, puisque Dieu nous appelle à aimer, ce serait... C'est pas une vraie caricature que de penser que par la vie religieuse, il faudrait renoncer à aimer.
Justement, qu'est-ce que ça a voulu dire pour vous, aimer?
Qu'est-ce que ça veut dire, aimer?
Oui, qu'est-ce que ça a voulu dire? Vous avez fait une expérience d'abord de l'amour dans votre famille, vous me disiez, n'est-ce pas? Vous m'avez dit
très
déjà.
Exactement, oui.
Que vous deviez beaucoup à votre maman.
Ah oui.
Vous avez fait donc toute une expérience avec vos frères, avec vos sœurs, etc.
Oui. Je veux dire que...
J'aimerais que vous me parliez de cette expérience chrétienne que vous avez faite de l'amour.
Oui. Quand j'avais 12-13 ans, au moment où je pensais de manière déterminante à opter pour la vie religieuse, oui, je me disais que j'avais tellement reçu au point de vue de l'affection dans la famille avec les frères et sœurs et les parents, que même si je n'étais plus, à partir de ce moment-là, je n'étais plus aimée par personne, si j'étais persécutée, si j'étais... Je crois que j'aurais encore le cœur comblé. Je me disais ça. Et que... ça valait la peine, puisqu'on pouvait s'aimer comme ça. C'était impossible que Dieu ne soit pas amour. Il me semblait presque le découvrir d'expérience, que Dieu est amour, puisqu'on pouvait tant s'aimer entre soi. Alors, après, il y a eu des moments tout de même où je me suis demandé si ça ne vaudrait pas la peine de fonder un foyer aussi. Et d'ailleurs, bon, il y a eu quelques occasions qui s'est présentées. Alors, c'est à ce moment-là qu'on fait vraiment... un choix, parce qu'on sent où on doit aller, au fond.
Et qu'est-ce qui a motivé, justement, ce choix de dire non à un foyer, pour dire oui à un amour que, je reviens là-dessus, que vous avez estimé plus grand et plus vaste, j'estime.
J'ai toujours été ramenée, intérieurement, si j'étais sincère, au sentiment que ça n'était qu'en me donnant totalement au Christ, dès maintenant, dès la vie actuelle, que je réaliserais ce qu'il me demandait. Mais je dois dire que ça n'a été entièrement clair pour moi que dans une récollection de jeunes où le père Épagnol s'est mis à nous parler du mariage comme voie de perfection. Et c'est curieux. Et le fait qu'on considère qu'on pouvait rejoindre la perfection à l'intérieur d'un foyer chrétien, eh bien ça m'a libérée pour me donner totalement au Christ. Parce que ça ne me paraissait pas alors, je ne sais pas, quelque chose d'exception qui serait au-dessus. Mais comme un appel autre qui m'était fait à moi, qui était un appel d'amour que j'avais le droit d'accueillir.
Mais quand vous dites un appel d'amour, quand vous me parlez de don au Christ, n'est-ce pas?
Oui.
Je pose une question qui est un peu dure, mais dans l'amour humain, on se donne, mais on s'attend à ce que l'autre... se donne aussi.
Oui.
On aime, mais aimer, c'est un appel à être aimé.
Oui. Mais on découvre dans la vie religieuse qu'au point de départ, on croit qu'on se donne, mais en fait, on accueille un don qui a bien, qui a même précédé le nôtre, enfin. Oui. On ne peut se donner au Christ que parce que lui-même nous invite en se donnant à nous.
Vous pourriez m'en parler de ce don que le Christ, que vous avez pu vivre, ce don que le Christ a fait, de lui-même à ce que vous êtes. Est-ce qu'on peut ouvrir votre intimité jusque-là?
Je ne sais pas si je sais bien l'exprimer. C'est très simple d'ailleurs. C'est aussi bien dans la vie communautaire en découvrant davantage que on a la possibilité d'aimer les autres parce que lui est là et que c'est encore lui qui nous donne la possibilité d'aimer les autres et que nous le rejoignons dans les autres. Et c'est aussi bien ça que de découvrir dans la vie de prière que même si c'est par moments aride, vous voyez, très très banal, très eh bien, il y a tout de même le Dieu fidèle qui est toujours là. C'est toujours possible de repartir, toujours possible de continuer, toujours. Ça ne fait qu'être un chemin qui s'approfondit.
Mais lui, cet être que l'on aime,
oui,
pour les hommes et les femmes qui nous entourent,
oui,
il est possible d'en parler. Il est possible de dire il est tel et tel, n'est-ce pas?
Oui.
Et le terme de ce discours, c'est finalement presque un émerveillement.
Oui.
Je suis ravi.
Oui.
Vous, celui, oui, que vous aimez, qu'est-ce, oui, que vous pouvez en dire?
Bien, il y a tout ce que la parole de Dieu nous fait découvrir aussi, enfin, qui n'est pas de simplement des idées que je pourrais avoir ou des sentiments, mais je trouve que l'Évangile et puis tout l'ensemble de la Bible, ça donne la possibilité d'un émerveillement, même que je dirais presque objectif. Enfin, je ne sais pas si c'est bien, mais on découvre la personnalité de Dieu et du Christ, si vous voulez, infiniment vaste et infiniment riche. Et c'est pas uniquement en moi. Enfin, c'est aussi objectivement extérieurement.
Mais qui est-il pour vous, celui que vous aimez?
Qui est-il? Il est tout, parce que tout y revient. Il est... Je ne sais pas bien le dire. Il est la raison de tout, le but de tout, celui qui remplit nos vies, la mienne et celle de mes sœurs, qui nous réunit, qui nous permet cette vie communautaire, qui me permet ces liens avec les gens très simples parmi lesquels je vis et où je trouve, dans un pays que nous appelons, même que nous reconnaissons, peu chrétien ou déchristianisé, mais où je trouve tout de même des valeurs qui ne peuvent être que de lui. Et il me semble que si je l'ai rejoint, c'est encore parce que c'est lui qui est là. On dit quelquefois il nous précède, mais c'est un fait, mais c'est vrai.
Vous le rejoignez, vous m'avez dit tout à l'heure, dans la prière.
Oui.
Qu'est-ce que vous appelez prier?
Prier, bien, c'est me trouver devant lui comme je suis, c'est-à-dire créature qui lui doit tout. Pauvre pécheur qui est comblé et qui, à cause de ça, peut vivre l'espérance qui transfigure la vie. Parce que par moments, on se dit le monde comme il est. Vous voyez, en ce moment, les guerres, les désespoirs, les situations. Je trouve que c'est on ne peut pas facilement se rassurer sur ce monde. Je trouve que c'est extrêmement tragique, enfin. Et c'est pas en une pirouette qu'on va se trouver à l'aise avec ce monde. Moi, c'est peut-être parce que j'avance dans la vie, je ne sais pas. Je ressens ça très fort. Et je trouve que, finalement, l'espérance, elle ne vient que du fait que le Christ a assumé notre condition d'homme, qu'il a passé par toutes ces souffrances-là, et que le cri de tout cela, eh bien, s'est exprimé sur la croix en lui, et le lien a été fait avec le Père, et nous allons à travers je ne sais pas quelle perspective de difficulté, de cataclysme et peut-être d'amélioration, et de... mais nous allons finalement vers lui.
C'est ça votre espérance?
C'est ça mon espérance.
Ce n'est pas un refuge?
Un refuge? Je ne le sais pas. Je ne sais, c'est possible. Mais je pense que si ce n'est pas un refuge, en un sens, dans le sens où ça dirait, bon ben alors, attendons, ne combattons plus, si vous voulez. Ne cherchons pas, ça va se terminer comme ça. Là, je dirais, c'est un refuge. Alors qu'il me semble que c'est plutôt une animation de la vie. Vous voyez, qui fait que, bon, je crois qu'il est possible d'obtenir quelque chose de l'homme.
Mais qu'est-ce que c'est votre combat, vous? Prenons des exemples.
Oui, c'est ça.
Je sais qu'actuellement, vous avez une sœur qui est aussi religieuse.
Oui.
Et qui est au Liban.
Oui.
Au moment où nous nous parlons.
Oui, j'y pensais. Oui.
Voici un combat.
Oui.
Elle a choisi de rester.
Oui.
Elle.
Oui.
Tout est bon.
Oui, c'est ça.
D'autres mènent un combat dans des usines.
Oui.
Pour une justice.
Oui. Oui. Nous avons des sœurs dans ce cas-là, d'ailleurs, parce que dans notre vie de travail, il y a aussi des petites usines rurales où sont engagées des sœurs.
Oui. Mais quel est le combat de Guylaine Aubé?
Mon combat? Ben, je ne sais pas très bien. Je pense que mon combat, c'est d'essayer d'être fidèle à ce que Dieu m'a demandé en entreprenant cette petite congrégation. Et le jour où elle passe à d'autres, de lui faire pleinement confiance pour que ça continue, s'il le veut, et d'entrer moi-même dans le jeu, de vivre ce que chacune de nous s'efforce de vivre. Je suis actuellement dans un petit prieuré, nous appelons prieuré nos communautés, de 4. Bon, je suis heureuse de jouer le jeu qui est celui de chaque sœur, si vous voulez. C'est-à-dire que bon, nous avons une prieure locale, qui est responsable de notre petite communauté. Nous sommes engagés dans une vie très simple, qui pour la plupart comporte un travail à mi-temps, pour les autres davantage de travail à la maison, qui participe aussi à l'effort pastoral de la région. C'est-à-dire que concrètement, moi je fais de la catéchèse familiale. Je ne sais pas si ça correspond à quelque chose
non,
pour vous au Canada.
Oui, dites-moi ce que c'est un
bon,
peu.
Ça veut dire que bon, le pays est très peu peuplé, vous voyez. Alors sur 25 km, il y a des tout petits villages. Il y a ici deux enfants de 8-9 ans, et là il y en a 3, là il y en a un. Bon, eh bien sur notre territoire, il y en a cette année 38 dont les parents voulaient qu'ils soient catéchisés. Bon. Alors j'ai essayé de trouver quelques mamans qui accepterait d'en regrouper 7, 8 ou 5 ou 6 autour d'elle. Et puis, je m'efforce d'aider ces mamans à se former, à s'animer. Elles ne sont en général pas pratiquantes, pour transmettre cependant quelque chose, des rudiments de la foi à leurs enfants, puisqu'elles le veulent. Et puis, je les regroupe moi-même, les mamans et les enfants, à des étapes variées, au moins 3 fois par an. Bon, bien ça, c'est... C'est simple, vous voyez. C'est un petit peu quand même mon combat, de continuer à le faire, de le faire, d'y croire, et de le mener à bout. Et puis, bon, dans le reste des journées, j'assure la cuisine de notre petite communauté, et je m'efforce de vivre ma vie religieuse complètement. Et entre deux, je suis quelquefois amenée à des activités au bénéfice des congrégations, de la formation des religieuses, oui. Et donc, alors, continuer à leur transmettre ce que je crois de la vie religieuse.
Si je vous posais une question peut-être très, très dure, mais...
Bon, dites.
Que nous nous posons, en tout cas, quand nous avons notre âge, n'est-ce pas? Nous
ça.
Sommes au milieu de la vie, nous avons
un
certain passé.
Oui, je dois avoir un peu plus que vous. Non, vous
bon, enfin, des nuances.
Oui.
À quoi avez-vous été utile dans votre vie?
Ça, je dirais comme Jeanne d'Arc, Dieu le sait. Je ne sais pas. Je pense tout de même que Dieu s'est servi de moi pour que ces 14 petites communautés démarrent. Voilà, je me dis ça. Bon, j'y pense pas tellement souvent, mais maintenant que vous posez la question, je me dis c'est vrai. Alors, ça aura la suite que ça aura. En tout cas, ça aura vécu un temps actuellement. Et je pense que ça a apporté Et ça apporte en ce moment une note dans l'Église qui devait avoir son importance et que les gens de l'Église de Haute-Volta voulaient avoir en nous faisant venir un petit peu et que l'Église qui est au Togo a voulu en nous demandant une fondation. Et alors que pourquoi est-ce qu'il fallait que les sœurs des campagnes, qui sont une poignée de sœurs, aillent faire une petite implantation au Togo? Et alors qu'il y a des congrégations missionnaires, nous avions toujours dit, nous laisserons aux congrégations missionnaires ce travail, mais même avec ces congrégations missionnaires, elles-mêmes nous ont poussés à y aller. Alors nous considérons qu'il y a une note que Dieu a donnée à notre famille religieuse. Et je crois que c'est celle de cette simplicité dans le monde rural, de croire à la vie rurale et à la vie religieuse en même temps. Et de le vivre, alors que c'est pas très reluisant, peut-être, quelquefois, de continuer à le vivre, de sorte que des femmes de la campagne peuvent avoir parmi elles ce témoignage de femmes consacrées à Dieu qui trouvent leur joie dans l'Évangile, en s'efforçant de vivre l'Évangile. Peut-être ça.
Sœur Guylaine Aubé, si nous réécoutions ensemble cette conversation que nous avons eue,
oui.
Il y a un mot qui revient souvent, que nous retrouvions souvent sur vos lèvres. À plusieurs de mes questions, vous avez répondu, je ne sais pas, je ne sais pas. Il y a beaucoup de choses que vous ne savez pas.
Oui.
Et vous acceptez de vivre avec ça.
Oui.
Qu'est-ce qui vous permet de vivre avec tout ce que vous ne savez pas?
Je dis Dieu le sait. Je pense que Dieu le sait. J'ai mis ma confiance en lui. C'est vrai qu'il y a beaucoup de choses que je ne sais pas. Et que
vous acceptez
et que
de ne pas savoir.
De ne pas savoir. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Oui. C'est vrai. Maman disait, c'est Sainte Thérèse d'Avila. Elle nous disait souvent ça quand nous étions jeunes. Sainte Thérèse d'Avila dit, nous ne voyons que l'envers de la tapisserie. Et maintenant, elle est décédée cet hiver. Je pense qu'elle voit l'endroit. Et je crois fortement à ça, vous voyez. Ça n'est pas une raison pour ne pas continuer la tapisserie, au contraire.
Ce qui vous donne la force, donc, c'est de savoir que Dieu sait ce que vous ne savez pas.
Oui.
C'est donc une confiance.
Oui.
Absolue.
Absolue, oui.
Qui a déjà été ébranlée.
Qui est souvent éprouvée. Parce que, en fait, il faut se replonger dans la foi pour c'est spécialement, vous voyez, ces dernières années, c'est un peu ce drame du monde qui me frappait, bon, avec, vous voyez, le surarmement, tout ça, c'est plus ça qui m'atteignait, si on peut dire. Et puis maintenant j'ai plus senti que le cri du monde et le cri des hommes, bon, il a été assumé dans le cri du Christ en croix. Et pour moi, je vois actuellement la liturgie comme ça, le cri des hommes continue à passer dans la messe, dans l'Eucharistie.
Le cri du Christ qui dit d'abord: pourquoi m'as-tu abandonné?
Oui.
Vous ne vous êtes jamais senti abandonné par Dieu?
Je ne me suis jamais sentie abandonnée par Dieu, mais j'étais à deux doigts de me dire: est-ce qu'on a raison de ne pas se sentir abandonnée par Dieu?
Votre foi, donc, pour vous, elle est extrêmement profonde, elle est presque comme naturelle, si je peux dire.
Oui, je crois que Dieu me donne la foi, mais par moments, quelquefois, malgré tout, on s'interroge.
Mais alors, quand vous êtes dans ces campagnes qui sont précisément déchristianisées,
oui,
qui n'ont plus la...
Oui.
Au milieu de ces gens qui souvent n'ont pas, n'ont
oui.
plus la foi.
Oui.
Qu'est-ce
je trouve
que cette
c'est
incrédulité...
stimulant, vous voyez ça. Je trouve ça, pour moi, et d'ailleurs je crois que c'est un test de notre vocation, j'ai souvent remarqué pour les sœurs. Il y a des gens que ça désespérerait, et nous, ça nous stimule. En sens d'y voir comme un appel, et un rappel.
Appel à quoi? Rappel de quoi?
Appel à croire davantage. Et rappelle que Dieu nous a appelés pour être là, que notre vie n'a de sens que parce qu'il nous aime, et que si nous pouvons vivre ensemble, venant de, malgré tout, d'horizons assez divers, des tempéraments assez divers, c'est parce qu'il est là et qu'il nous veut pour ces régions-là. Voyez. Et je pense que ça, c'est stimulé par la pauvreté même du milieu. Mais à condition, tout de même, en pensant à l'ensemble de nos priorés, de nos sœurs, à condition qu'on ait très fortement axé en nous de continuer à s'alimenter de la parole de Dieu, à vivre une vie liturgique, parce que ça pourrait être anémiant, ces milieux-là.
Mais quand on vous dit, quand on dit par exemple aux chrétiens qu'ils sont actuellement une minorité et qu'ils sont demain une minorité encore plus minoritaire, ça ne vous décourage pas ?
Ah non, là, pas du tout, non. Parce que ça, je me dis que dans le plan de Dieu, on n'a jamais su ce qu'il en serait. Enfin, d'autant plus que, étant donné que Dieu seul connaît le fond des cœurs, l'Église invisible est peut-être tellement vaste, je m'en remets à lui, ça c'est...
Mais vous cherchez à convertir, alors ?
Je cherche à ce que les gens soient mis en face de la révélation de l'amour de Dieu. J'ai toujours trouvé, même depuis l'enfance, que connaître quelque chose de si extraordinaire et pouvoir en vivre, et puis voir des gens qui sont désespérés ou qui ne peuvent pas en vivre, qui ne peuvent pas avoir cette espérance, ça c'est bouleversant. On voit des gens qui sont si braves et humainement si bons ou même si malheureux et apparemment si mauvais, et on se dit mais ils auraient cette lumière, enfin, et nous devons tout faire pour qu'ils l'aient. Après, c'est Dieu qui s'en débrouille, hein, c'est pas nous qui donnons la foi.
Sœur Guylaine Aubé, je vous remercie.